イモッシュ。Différents plans. Mais il y a énormément de plans. Énormément, c'est-à-dire au niveau cellulaire, atomique, subatomique, énergétique, au niveau psychologique, à l'intérieur, notre corps émotionnel, c'est un autre plan. L'intellect regarde les choses différemment que l'ego. En fait, il y a beaucoup de différents plans qui fonctionnent en même temps. En fait, ce que je dis, je, c'est composite. C'est ensemble de plein de choses. Mes comportements, mes ressentis et tout ce qui se passe en moi. Pourtant, je dis, je suis en colère ou je ne suis pas en colère, j'ai telle pensée qui anime en réalité. Beaucoup de choses ne sont pas la nôtre. Également, quand on a certaines difficultés physiques ou psychologiques, nos comportements sont complètement différents. Nous avons trouvé un événement, quelqu'un qui a assassiné plein de gens et finalement la personne était abattue et on a fait le test. En fait, il avait un cancer dans le cerveau. Quelquefois, quelqu'un qui a un problème intestin, qui a une ulcère, mais ses comportements, ça peut être complètement différent que si il n'avait pas ça. Donc, nous sommes résultat d'énormément de choses. Quand on prend un petit peu sérieux l'astrologie, le jour de naissance, l'heure de naissance, plus ou moins influencée par le climat, la saison, la position des étoiles et les planètes. C'est une réalité. On ne peut pas douter cela, même si ce n'est pas une science exacte. Les planètes lointaines influencent nos fonctionnements psychiques, comme la Lune. La Lune influence notre fonctionnement. Donc, quand on regarde comme ça, déjà, c'est extrêmement complexe. Si on ajoute les influences de karma de cette vie et d'autres vies, héritage génétique transmis par les parents, quand on va rentrer dans toutes les complexités, on va comprendre qu'en fait, notre liberté se réduit de plus en plus. Nous sommes capables de dire aujourd'hui je suis en pleine forme, un autre jour je ne suis pas bien, mais qui est responsable? Par quelle raison? Nous ne savons pas. Et souvent mystérieux. Quels sont les facteurs qui influencent l'individu? C'est innombrables facteurs. Notre présent est le résultat d'énormément de facteurs. C'est comme si vous enlevez derrière d'une télé, regardez les innombrables circuits des instruments, des divers objets qui est à l'intérieur. En fait, si vous enlevez un, l'image est brouillée. Peut-être on ne le voit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui chapeaute tout? Est-ce qu'il y a une intelligence qui gouverne tout? Est-ce que nous avons la possibilité de l'accéder ou pas? Ça, c'est le domaine de la recherche spirituelle. On ne va pas simplifier en disant que c'est Dieu qui va tout contrôler. Imaginez quelqu'un qui contrôle tout ça, ça va être extrêmement compliqué pour Dieu. Le travail, imagine le travail. Piloter tous les êtres humains, pas seulement les êtres humains, tous les astres, tous les... En fait, les lois fonctionnent. Il y a des lois qui règlent. Tout ce que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a des lois et ce n'est pas quelqu'un. Si c'était quelqu'un, on va avoir des soucis. Parce que ça donne une entité et qu'on ne peut plus faire quelque chose avec parce qu'il est supérieur, qu'on restera toujours inférieur. Notre limite, notre liberté sera toujours compromise. Donc, il y a une nécessité, je dirais, de se plonger sur nous-mêmes, notre fonctionnement, quelles sont des règles, quelles sont des forces, des lois qui déterminent notre joie, notre bonheur, notre malheur. Cette étude n'est pas du tout une étude proposée dans des écoles. Pourtant, nous avons tous besoin d'être heureux. Et donc, ce sera intéressant de savoir comment nous pouvons être infiniment heureux, n'est-ce pas? Vous êtes intéressé? Une personne qui pleure respire dans une façon, une personne qui rit respire dans une autre façon. Une personne qui est dans un état de paix respire dans une façon, qui est angoissée, respire différemment. Est-ce que c'est le souffle qui détermine l'état ou l'état qui détermine le souffle? Si on comprend bien, si on cherche à harmoniser notre souffle, on peut accéder à des différents états de conscience. C'est-à-dire, on peut intervenir sur notre fonctionnement. Mais ce n'est pas du tout la recherche du monde. Qu'est-ce que c'est exactement la joie? Qu'est-ce que c'est le plaisir? Qu'est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est très personnel? Est-ce que c'est une simple état psychologique? Nous constatons simplement qu'aujourd'hui je suis bien, je ne suis pas bien, etc. Quelquefois, nous pouvons trouver certains rapports entre les événements. Quand je désire quelque chose, quand je le trouve, je suis bien. Quand je ne le trouve pas, je ne suis pas bien, etc. Donc, il y a des symptômes extérieurs, superficiellement, mais au fond, est-ce que notre joie, notre état intérieur est décidé par qui, quoi, comment? Comment ça peut être perturbé? Ça, c'est l'étude qui peut être intéressante. Si on veut accéder à une forme de joie, de bon marché. Je dis bon marché parce qu'en ce moment, tout est à vendre. Parce que toutes les publicités nous proposent du bonheur. Tout le monde cherche à vendre le bonheur, avec un prix, bien sûr. Je dirais, c'est notre devoir si on veut modifier le fonctionnement du monde, parce que le monde est gouverné par des commerçants, par des banquiers. Et tous les autres, en fait, ne font que collaborer. Si vous pouvez, à volonté, aller ouvrir toutes les portes de bonheur, portes de bonheur à l'intérieur de nous, et se servir à volonté, dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons plus être manipulés par aucune force extérieure. Donc, dans le monde, dans le fonctionnement du monde, il y a une volonté pour qu'on n'accepte pas du tout cette bonheur intérieur. On ne veut pas. Ça, c'est quelque chose de très important de savoir. Parce que c'est un secret. Même si on propose l'art de bonheur, ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour moi. De toute façon, yoga, ce n'est pas possible pour moi parce que je ne suis pas assez simple, assez souple, ou je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés en certaines façons pour qu'on refuse. Et par hasard, il y a des moments où on trouve une joie débordante à l'intérieur. On est très gêné parce que les autres, le regard des autres nous embêtera. Parce qu'ils vont... Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je suis infiniment heureux? Donc, on n'ose même pas montrer notre part. Donc, en fait, nous sommes quelque part condamnés à garder certains états normaux des gens. Si on n'est pas bien, c'est encore mieux parce que comme ça, on pourra raconter quelque chose. On devient important. Parce que si vous savez que le mal que j'ai vécu, donc il y a des choses à raconter. Donc, ego peut s'affirmer sur la souffrance. Mais ego ne peut pas s'affirmer sur la joie. Parce que la joie fait fondre l'ego. Tout n'est pas décidé. Donc, je vous avais dit, ne pensez pas que tout est décidé par des facteurs extérieurs. Si vous pensez comme ça, l'effort personnel ne trouve plus la raison d'être. Nous devons croire au fond de nous. Je peux influencer mon environnement. Je peux changer mon environnement intérieur et extérieur. Et ma volonté a une place. Après, qui c'est ce je qui dit « Oui, je veux arriver à faire ça, je veux ça ». Quand on se plonge sur la source de la volonté, est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le psychisme qui a la volonté? Ça participe seulement. Donc, au fond de nous, il y a un rêveur. Et le rêveur, il ne sait pas qu'il est en train de rêver. Parce qu'il dort. Bien sûr, on ne peut pas rêver sans tomber dans un état de sommeil. Si vous regardez une personne qui est en train de dormir, respire d'une façon. Quelqu'un qui est dans un état d'éveil, respire différemment. Si la personne est à des sommets profonds, elle respire encore différemment. Je voudrais vous inviter sur l'importance du souffle. Si vous cherchez un maître, il n'y a pas autre maître que le souffle. Si vous suivez quelqu'un, ne suivez pas autre principe que le souffle. Le souffle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le souffle peut tout décider, tout modifier. Souffle, c'est la vie. Souffle, c'est le lien entre l'individu et le tout. Tout est décidé par souffle. Si nous sommes à la recherche de la paix, de la sérénité, c'est le souffle qui décide tout. Notre état de santé, nos agitations intérieures, notre existence même. Aussitôt que le souffle quitte notre corps, le corps se décompose. Il n'y a plus de force qui tient toutes nos cellules, tous nos atomes ensemble. Tout être vivant respire. Tu ne respires pas, on ne vit pas. Le souffle peut changer notre vie, notre destin. Souffle est à la fois indépendant et à la fois capable de s'obéir. On observe de près cette activité respiratoire. On voit, il y a, elle inspire et elle expire. L'inspire, c'est un mouvement vers le haut, mais aussitôt, ça change, ça devient un mouvement vers le bas. Donc, il y a deux forces qui fonctionne à l'intérieur de nous. Dans le corps, il y a un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas. Et le yoga nous dit que toutes les transformations de la nourriture jusqu'à la conscience, jusqu'au tissu reproductrice, tout est décidé par, réglé par le souffle. Il y a aussi des souffles, des différentes formes de souffles qui créent l'équilibre de prana dans le corps, l'énergie dans le corps. Quand on observe notre répartition de conscience dans notre corps, comme il y a une concentration des organes sensoriels au niveau du visage, les oreilles, les yeux, le nez, la langue, la peau, en fait, tout est ici concentré. Et que nous sommes moins conscients d'autres parties de notre corps. En fait, notre vie, c'est très partiel. Nous n'incarnons pas assez notre corps. Le souffle, ce n'est pas du tout un sujet. On fait l'éducation physique, mais on ne fait pas l'éducation de souffle. Pourtant, c'est nécessaire. Et beaucoup d'adolescents, même des enfants et des adultes aussi qui ont des problèmes émotionnels, qui sont stressés, mais en fait, quand on observe de près, ils respirent mal, ils ne respirent pas bien, pas assez ou correctement. Pendant longtemps, donc, en Europe, on mettait les corsets pour les femmes, pour la beauté, on les a quasiment empêchés de respirer par le ventre. qu'on ne pouvait plus respirer par le bas. Il fallait respirer que par le haut. Quand les émotions sont bloquées, notre respiration devient différente. Le premier pas vers une modification de notre destin, c'est le souffle. Si on veut modifier quelque chose dans notre cours de la vie, d'abord, portez attention sur le souffle. C'est le souffle qui se transforme quand on parle. Sans le souffle, je ne peux pas parler. La parole est liée au souffle et la parole est liée à la pensée. Donc le souffle est l'intermédiaire entre la pensée et la parole. Et la parole et l'acte sont liés. Et donc le souffle est responsable pour la pensée, parole et acte. Observez des animaux respirer, les enfants respirer. Parce qu'ils respirent en unisson avec le rythme cosmique. Ce petit mouvement de respiration, en réalité, c'est un mouvement cosmique. Surtout quand on dit cosmos, on va imaginer quelque chose de grand, loin, mais en fait, c'est tout près. Nous sommes dans un vaisseau spatial qu'on fait un chemin. Nous, on imagine faire des voyages dans l'espace, mais en fait, nous sommes déjà dans ce vaisseau qui est la Terre, qu'on trace un chemin de l'infini à l'infini. Ce soir, c'est un événement cosmique. Notre naissance est un événement cosmique. Et nous oublions cette dimension cosmique. En prenant conscience du mouvement de souffle, sans intervenir, observer le souffle, ça nous amène à comprendre comment le psychisme est décidé par le souffle. Un enfant nouveau-né, est-ce qu'il commence à expirer ou à inspirer? Le premier souffle, est-ce que c'est une expiration ou une inspiration? Nous n'avons qu'une seule chance. Parce que dans le ventre, quand on est fœtus, le poumon est plié. À la sortie, il n'y a qu'une seule chance. Ça se déploie. Si ça ne se déploie pas, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est l'enfant avec ses muscles qui fait comme on fait là maintenant? Inspire, ouvre les cages thoraciques, non. C'est l'univers, donc selon yoga, c'est le souffle cosmique qui se précipite à l'intérieur de l'enfant pour le rendre vivant. Comme dans l'histoire de Adam, Dieu a soufflé exactement cela. Mais après, on a laissé tomber cette histoire de respiration. On vit loin de cela. S'il y a un yoga, c'est observation du souffle. Et tout le reste, c'est trop en réalité. Quelquefois, c'est nécessaire, mais le yoga qu'on peut faire tout le temps, c'est l'observation du souffle. et chaque souffle tisse le lien avec l'univers. Nous ne réalisons pas à quel point chaque souffle nous apporte de la joie, du bonheur. Pour savoir, ça suffit d'arrêter de respirer. Après quelques secondes, on va comprendre que quel point qu'on souffre si on ne respire pas. Je vous invite vraiment, si vous voulez avoir une vie joyeuse, joyeuse, rien d'autre comme moyen que le souffle. Simplement porter attention sur le souffle. En réalité, mon désir, c'est enseigner uniquement le souffle, rien d'autre que le souffle. Parce que tout le reste, c'est trop. Trop de paroles. Simplement observer. Jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre que l'air que j'inspire et contient à l'intérieur beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de nutriments. On peut vivre uniquement par le souffle. On peut se nourrir que des prana. Bien sûr, on aime bien manger, c'est que pour plaisir. Mais en réalité, exister, pour continuer, ça suffit de respirer. Ça change le destin de chacun de nous. Prenez ça au sérieux, parce que moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai reçu l'enseignement très tôt dans mon chemin spirituel, mais j'ai commencé à mettre véritablement en pratique que plus tard, une fois que j'avais vu que tous les savoirs n'ont rien changé dans ma vie. Toutes les postures de yoga n'ont rien changé dans ma vie. Je commence à me dire, qu'est-ce que c'est qui peut marcher maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore? Oui, je n'ai pas investi sur le souffle. C'est pas, je ne parle pas de pranayama dans le sens combien de durées d'inspire, combien de durées d'expire, la respiration alternée, vastriga, kabalabadi, etc., etc., sudhivedana, tandravedana, etc., ou plavini, ou innombrables pratiques que nous connaissons dans le yoga. Je ne parle pas de ça. Vous pouvez toujours le faire. Je parle pour que vous deveniez intimement conscient de ce mouvement presque sacré ou sacré. Le souffle guérit. Le souffle soulage. Le souffle répare tout. C'est lui qui fait ça. Il peut changer son destin. Donc, même si il y a quelque chose qu'on peut dire, le destin, tout a décidé, tout est écrit, mais celui qui porte l'attention sur son souffle, mais pas un jour, pas deux jours, mais les années, constamment, jour et nuit, vous dormez. Moi, bien sûr, je ne vais pas vous demander de ne pas dormir pour observer le souffle. Observez les souffles. Comprenez intimement tout ce qui se passe, les mouvements subtils. Nous pensons que le souffle s'arrête dans le poumon, mais en réalité, le souffle traverse jusqu'aux orteils. vous invite vraiment à sentir toutes les sensations provoquées par cet acte d'amour. Chaque inspiration, c'est l'univers, se précipite à travers les deux narines à l'intérieur de nous. Il est entièrement indépendant de nous. Ils ont des missions, c'est des missionnaires. Chacun inspire, mais certainement nous ne sommes pas conscients parce que nous ne portons pas attention à tout ça. C'est compter le nombre de cycles respiratoires dans notre vie. Ne laissez pas perdre un seul cycle respiratoire. Le yoga nous dit le nombre total de cycles respiratoires est décidé à la naissance. Mais la longueur peut être décidée par nous. Quelqu'un qui a plein de stress, qui est contracté, qui n'a pas un statut droit, qui n'a pas certaines ouvertures, la longueur de l'inspire et l'expire n'est pas pareille. Il y a une évolution, d'ailleurs, par rapport à il y a quelques siècles. La durée de l'inspire et expire est modifiée. L'homme moderne respire mal parce qu'il pense trop. Et nous avons appris maintenant, et pour certaines interventions chirurgicales qui durent beaucoup, beaucoup d'heures, et connecter le corps, le cœur et le poumon sur une machine, ça ne peut pas durer plusieurs jours, ce n'est pas possible. Donc, pour des interventions qui durent très longtemps, on réduit la température du corps à 19. Là, le corps peut continuer à exister sans respirer. Et donc, on ne consomme pas l'oxygène, le cerveau s'arrête. Et puis, une fois que l'intervention est terminée, la température augmente. Et puis, le corps redevient à la vie. Et souvent, quand on ne respire pas, ce qui se passe après, au bout de 5 minutes, le cerveau est endommagé. Un esprit qui est complètement silencieux, consomme moins d'oxygène. Quelquefois, on peut même oublier de respirer parce que le cerveau est tellement calme. Dans le yoga, c'est bien étudié. Il y a Sahaja Kumbhaka, Kevala Kumbhaka. Il y a des différentes sortes d'arrêts de respiration en fonction de l'apaisement intérieur. Il est vrai, tout est décidé, mais ce plan, nous n'avons pas accès. Donc, nous n'avons pas besoin de penser ouais, si Dieu le veut. Laissez tomber cela. Dieu, il va faire son affaire. Nous, nous allons poursuivre notre chemin. C'est notre devoir. Notre action, nous devons faire. Chacun son fonction. L'ego fait ce qu'il y a à faire. L'intellect fait ce qu'il y a à faire. En fait, une fois que toutes nos facultés, intérieures et extérieures, tout est orienté autour d'un même but. Il y a le bonheur. Qu'il n'y a absolument aucune action qui tombe à l'extérieur de perspective de notre but ultime. Là, le souffle transforme l'individu. Là, il y a l'harmonie. C'est ça que je voulais te dire comme réponse à main. C'est aussi pour chacun de vous pour porter attention au souffle que trouver le bonheur uniquement parce que je respire. Je suis bien parce que je respire. Mais respire comment? Respiration avec une attention aiguisée. Je vous invite à sentir le moindre sensation à l'intérieur des narines. Pendant l'inspire et l'expire. Et à travers ça, nous pouvons comprendre qu'il y a un mouvement d'énergie partout dans le corps, que peu à peu, on peut même amener notre énergie, notre prana ailleurs. Donner notre énergie à quelqu'un. Et protéger notre énergie quand quelqu'un qui vient le prend. Devenez conscient de l'épaisseur de l'air qui rentre par les deux narines. Et comparez l'épaisseur de l'air qui sort. Comparez les endroits où ça frotte à l'intérieur de narines pendant l'inspire et pendant l'expire. Allez jusqu'au bout de votre observation pour que chaque souffle qui nous crée le lien avec le tout, avec l'univers, avec toute autre forme de vie que nous comprendrons, que nous sommes tous en train de respirer ensemble. Tout être vivant. Et on va comprendre également l'univers tout entier respire. C'est que récemment qu'on avait compris que le cerveau respirait. Le cerveau fait des mouvements 15-16 fois par minute. Même les cellules respirent. Il y a une expansion, il y a une contraction rythmique. Et encore plus loin, les particules, les électrons respirent. Ils font des légers mouvements d'expansion et contraction. Il y a un rythme cosmique de bonheur. Dans le yoga, on appelle spanda. Quand vous résonnez avec ce rythme cosmique de Prakriti Purusha. Prakriti et Purusha, la conscience et l'énergie, ce n'est pas deux principes comme ça collés. Il y a un mouvement. Ce mouvement, c'est la vie. Quand nous résonnons avec Prakriti Purusha, que nous sommes parfaitement en harmonie avec ce mouvement cosmique, il n'y a plus de différence entre le sacré et le profane. Nous avons transformé notre existence, que nous devenons un être spirituel. Merci pour la question. C'est déjà le temps à passer. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous allons retrouver encore demain, une dernière fois, demain soir. Jusqu'au là, respirez. Mais aussi après. Je vous invite à chanter avec moi. Om. Inspirez profondément.
Oh.